Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec mon collègue Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme ?
Salut Gilles, oui, en forme et toi ?
Eh bien écoute, impeccable. En plus, on a une belle surprise pour ceux qui écoutent le podcast ou qui regardent notre émission. Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast, toutes les bonnes plateformes pour suivre ce podcast. N'hésitez pas, vous nous donnez 5 étoiles et puis vous vous abonnez. Comme ça, à chaque fois qu'on publie un nouvel épisode, eh bien, ça arrive directement sur votre application. Aujourd'hui, je vous le disais, on a un programme exceptionnel avec un méga invité, Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2019, qui nous a fait l'amitié, le plaisir, le privilège de partager la moitié de l'émission avec nous. On parlera d'IndyCar, évidemment, et de Formule 1. Beaucoup. On a aussi une activité brûlante, hein, Stéphane, sur le calendrier de la Formule 1 2021 qui a été publié par la Fédération internationale de l'automobile là, il y a quelques dizaines de minutes, j'ai envie de dire, au moment où on enregistre cette émission. Et puis on évoquera aussi le cas de Kimi Raikkonen qui se prépare à enchaîner une 19e saison de Formule 1, toujours chez Alfa Romeo. Et on débute donc, Stéphane, si tu le veux bien, par eh bien, cette interview qu'on a fait hier soir. Hein. Vous verrez que la lumière n'est pas tout à fait la même. Avec le décalage horaire, on a enregistré ça un petit peu avant le moment habituel d'enregistrement de l'émission avec Simon Pagenaud. Et puis nous, on se retrouve juste après. Et comme promis, on a donc en vedette américaine aujourd'hui avec nous dans les fous du volant, Simon Pagenaud. Mille merci, Simon, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, un privilège. On est heureux d'accueillir dans notre émission, dans notre podcast, un champion IndyCar en 2016, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis 2019. Ça faisait un siècle qu'un Français n'avait pas gagné et il est avec nous ce soir. Merci beaucoup, Simon, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il fait jour chez toi. Chez nous, il fait nuit. Hein. Il y a 6 heures de décalage. Merci beaucoup. Bienvenue, Simon, dans les fous du volant.
Ben, merci, Gilles. En tant que fou du volant, c'est un peu logique qu'on ait pu se retrouver. Donc, merci de me recevoir, en tout cas.
Alors, je fais les présentations. Stéphane Vrignot, Simon Pagenaud. Simon Pagenaud, Stéphane Vrignot. Simon, on attaque dans le vif du sujet. 8e du championnat IndyCar qui s'est achevé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Je sais que tu as enchaîné ensuite avec des essais. Ce n'est pas une saison. Alors, évidemment, il y a eu le Covid, les courses qui ont été déplacées. Ce n'est pas une saison qui t'a plu. Une seule victoire et 8e place au classement. Ça ne t'a pas plu?
Non, ce n'est pas une année qui m'a enchanté, on va dire. Ça a été, d'un point de vue sportif, un peu moyen. Très honnêtement, on n'a pas trouvé l'équilibre sur la voiture. Il n'y a pas eu d'essai. Donc, on n'a eu qu'une seule journée et demie d'essai depuis le début de l'année 2020, dans des conditions difficiles, parce que la météo à Austin, Texas, était près de zéro. Donc, les pneus ne se mettaient pas en route. Enfin, bref, on n'a pas réussi. Par rapport aux autres, tout simplement à travailler aussi bien et à trouver le comportement dont j'avais besoin sur la voiture pour extraire un maximum de moi-même et de la voiture. Et on a souffert surtout en milieu fin de saison où on n'a pas pu avoir la performance de certains. Donc, résultat 8e, ouais, décevant, avec un peu de malchance, quelques accrochages, quelques différences par rapport aux années précédentes. Mais le gros de la saison, ça a été le manque de communication, tout simplement avec mon ingénieur, avec mon équipe, à cause, je dirais, des conditions dans lesquelles on était. Peu d'essais, impossible d'aller à l'écurie de façon à respecter les précautions sanitaires. Et ça a été une saison différente auquel j'ai eu du mal à m'adapter.
Et une communication aussi, peut-être pas compliquée, mais en tous les cas, qui ne se complétait pas bien, je parle en termes de style de pilotage avec tes équipiers, puisque quand on cherche des solutions, il faut des points communs avec les coéquipiers. Et là, il n'y en avait pas tellement finalement pour essayer de trouver le feeling, trouver ce qui n'allait pas sur ta voiture.
Oui, c'est ça, Stéphane. C'est, alors, je compare souvent la course automobile à trouver la bonne chaussure. Donc, en fait, quand on est à l'aise dans une chaussure, on n'a pas envie d'en changer. Et malgré tout, elle s'use et il faut en changer. Et les premiers jours avec ces nouvelles chaussures ne sont pas forcément très agréables. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi cette année avec l'aéroscreen a changé le comportement de la voiture qui a beaucoup plus de poids sur l'avant. Et en fait, ça rajoute énormément de stabilité sur les freinages et les sorties de virage. Mais par contre, ça ajoute énormément de sous-virage, donc le train avant qui glisse, au milieu du virage. Et personnellement, c'est, par rapport à mon style de pilotage, c'est quelque chose dont je souffre énormément, d'avoir du sous-virage au milieu. Et je n'arrive pas à extraire le maximum de la voiture dans ces conditions-là. Donc, on a essayé d'adapter, mais mes coéquipiers, eux, tout simplement étaient meilleurs à s'adapter à la voiture que moi. Et arriver à en ressortir du chrono, moi, je n'y arrivais pas. Donc, on a progressé en fin de saison avec des solutions, mais ce n'était pas suffisant pour rattraper les points perdus. Mais ça fait partie de la course auto.
On va expliquer à ceux qui suivent de loin l'IndyCar que tu roules, toi, pour l'équipe de Roger Penske, qui est un monument dans les sports mécaniques américains, et que tu as… Combien tu avais de coéquipiers cette saison ? Parce que ce n'est pas comme en Formule 1, il n'y a pas que deux voitures par équipe. Hein.
Ouais, on était trois voitures à plein temps et Helio Castroneves nous a rejoint pour les 500 matchs d'Indianapolis, donc quatre voitures. Et l'année prochaine, on sera quatre voitures avec Scott McLaughlin qui est trois fois champion en titre consécutif de V8 Supercar, un pilote exceptionnel qui vient d'Australie. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va donner.
Et en revanche, du côté de la grande équipe rivale, Chip Ganassi Racing, on a réussi à bien s'adapter puisque Scott Dixon est allé chercher un sixième titre, sa première couronne. Je regardais les statistiques avant de faire cette entrevue avec toi, Simon. Premier titre en 2003, c'est colossal. Scott Dixon, sixième titre, vainqueur à Indianapolis en 2008, redoutable.
Ouais, redoutable. En 2003, j'étais avec ASM en Formule Renault avec Frédéric Vasseur en championnat d'Europe de Formule Renault. Donc, c'est clair que c'est impressionnant de voir la durée de vie de Scott Dixon à ce niveau-là. C'est assez incroyable. Je crois qu'il a démarré en IndyCar à 18 ans et il est encore au top de sa forme. Donc, c'est clair que c'est redoutable. C'est une équipe qui a travaillé dans la continuité. Certains de ses mécaniciens ont été avec lui depuis ses débuts. Donc c'est assez incroyable de voir ça. C'est une équipe qui est capable de faire de très très belles courses. Ils ont la capacité de changer de stratégie au bon moment. Il y a vraiment une fluidité dans ce qu'ils font qui est assez impressionnante. C'est clair. Et Dixon, il ne faut jamais jamais penser qu'il n'est pas dans le jeu parce qu'à la fin il arrive toujours à s'en sortir.
Alors Simon, en fait, tu nous as expliqué tes problèmes d'aéroscreen. Je crois qu'il t'affectait plus sur les routiers. D'ailleurs, tu gagnes sur un oval, mais à Indianapolis, là, ça a été une très mauvaise expérience cette année. C'était le jour et la nuit par rapport à 2019 où tu as presque piloté comme sur un nuage, on va dire.
Ouais, les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On avait un avantage au niveau du moteur, je pense, l'année précédente, en 2019, Chevrolet avec un petit peu plus de puissance. Et sur un ovale comme Indianapolis, un cheval de puissance est énorme, ça fait beaucoup, beaucoup de vitesse. Donc cette année, ça avait l'air d'être un petit peu l'opposé. Honda avait trouvé un petit peu plus. Et c'est sûr qu'on a souffert en qualification, on l'a vu, les moteurs Chevrolet. Il me semble qu'il n'y avait qu'une seule voiture Chevrolet dans le Fast 9. Dans le top 9. Donc on a souffert. On démarrait 22e. C'est une année où l'aéroscreen a changé également la facilité de dépasser. L'aspiration était moins forte. Et donc, remonter de 22e a été compliqué. On a eu une chance, je pense, de pouvoir se battre dans le top 5. Mais malheureusement, lorsqu'il a fallu être agressif sur un restart, je me suis accroché avec Ryan Hunter-Reay. Et nos chances de bien figurer se sont évaporées, je dirais. Donc voilà, c'était encore une fois une année à Indianapolis qui s'est pas transformée, on va dire. Mais bon, c'est partie du jeu. C'est le type de course où de toute façon faut faire comme au poker, all-in.
C'est ça à chaque fois. Tu as gagné donc à Indianapolis en 2019 et tu as été invité donc à la Maison-Blanche par Donald Trump qui, bah, lui, est en train de faire ses valises. Enfin, il n'a pas trop envie apparemment de faire.
Apparemment.
Vu d'Europe, ça paraît assez incroyable quand même que le vainqueur d'Indianapolis soit invité à la Maison-Blanche. Comment ça s'est passé? Comment il est Donald Trump en vrai?
Oh bah écoute, Gilles, moi, tu sais, j'ai la politique, c'est pas mon truc déjà.
On parle pas de ça, on parle, voilà, c'est quand même le président des États-Unis.
Je pose les choses déjà. La politique, c'est pas mon truc. Je trouve que ça divise beaucoup trop les gens et c'est dommage. Je suis quelqu'un de très spirituel, donc forcément, la politique ne rentre pas forcément dans mon schéma de vie. Mais c'est un honneur, évidemment, d'aller à la Maison-Blanche de par l'histoire, de par. Ce que représente la Maison-Blanche pour un Français, de se dire que en démarrant à Montmorillon au circuit du Val-de-Vienne et puis ensuite dans les championnats internationaux en Europe, je me suis retrouvé à la Maison-Blanche en tant que vainqueur de la plus grande course au monde, les 500 miles d'Indianapolis. C'est extraordinaire, c'est vraiment, pour eux, c'est le joyau de la course automobile, c'est la plus grande course du monde. Donc forcément, c'est comme de gagner le Super Bowl. Donc le Super Bowl, c'est le football américain. Et voilà, Donald Trump invite les champions à le rejoindre pour célébrer la victoire. Donc pour mon équipe, évidemment, mes mécaniciens, c'est incroyable de pouvoir rencontrer un président des États-Unis. Pour moi, c'était encore une fois un honneur et j'étais fier de représenter la France dans un moment comme celui-là.
Est-ce qu'il s'y connaît un petit peu en sport auto quand même, est-ce qu'il t'a posé une question?
Alors j'étais étonné parce qu'on a eu une discussion, pas de politique, hein.
Non, je répète,
mais on a eu une discussion normale, c'est-à-dire qu'il avait suivi la course et il a été fasciné par ma stratégie dans les 13 derniers tours. Et il était apparemment au Japon à ce moment-là, il a suivi la course et je l'ai eu au téléphone après l'arrivée. Donc, il a téléphoné à Roger Penske pour m'avoir au téléphone et me féliciter. Et il était fasciné par cet échange avec Rossi, comment ça s'était passé et comment j'avais fait cette stratégie dans ma tête de finir devant. Donc, il voulait tout savoir. Il voulait savoir ce qui me passait par la tête au moment où Rossi me double à deux tours de l'arrivée. Est-ce que je savais que j'allais le redoubler? Comment je savais que ça allait se passer? Et c'était fou parce que c'est rare d'avoir quelqu'un d'aussi important qui s'intéresse en détail comme ça à une course automobile ou à ce que j'ai pu faire. Donc c'est une conversation intéressante puisque les deux parties étaient intéressées. Donc ça, c'est, pour moi, ce sera un bon souvenir malgré tout ce qu'on peut dire de lui. Ça sera un beau souvenir de dire j'ai discuté avec le président des États-Unis.
Voilà, puis on retiendra « From Montmorillon to the White House
». Exactement.
Bon, on va s'arrêter là pour cette première partie de notre interview avec Simon Pagenaud. Je le dis pour ceux qui regardent ou qui écoutent ce podcast. Et puis, on va en faire une deuxième partie maintenant. On va parler un peu plus de Formule 1, si tu le veux bien, Simon.
Avec plaisir, avec plaisir.
Alors, on attaque tout de suite, on enchaîne. On a parlé donc d'IndyCar, des 500 miles d'Indianapolis, de la Maison-Blanche. Même, on va parler Formule 1. C'est ce dont on parle, nous, chaque semaine, Simon, dans Les Fous du Volant. Et on voulait avoir ton avis, ton regard sur Lewis Hamilton. On a parlé de Scott Dixon, celui qui a gagné le championnat IndyCar cette saison, donc du côté des États-Unis. Lewis Hamilton devrait aller chercher la couronne, une septième couronne de champion du monde de Formule 1 pour le prochain Grand Prix en Turquie. Je sais que tu as roulé déjà, tu as été confronté à Lewis Hamilton en piste. C'est comment de rouler contre Lewis Hamilton?
Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer très dur cet hiver pour qu'on parle de l'IndyCar toutes les semaines sur Les Fous du Volant.
Donc
je vais bosser cet hiver, je reviens plus fort et encore meilleur. Donc déjà ça c'est dit. Ensuite, Lewis Hamilton, écoute, on en a déjà parlé ensemble, mais pour moi c'est le pilote qui m'a le plus impressionné dans toute ma carrière. Je l'ai croisé en piste, on s'est battu, j'ai eu la chance. Aujourd'hui je le dis parce que il va certainement être ça va être le pilote qui aura le plus grand palmarès de la F1 de tous les temps jusqu'à maintenant. Et voilà, pour moi, c'est quand on s'est rencontrés en piste, évidemment, il était à un beaucoup plus jeune âge. Moi, j'étais chez ASM et lui, il était chez Manor. en Formule Renault. C'était à, on s'est rencontré à Spa, on s'est rencontré à Assen, Donington. Et à Assen, on a eu une super bagarre toute la course, roue contre roue, aileron dans aileron. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Mais il avait ce petit plus, toujours, tu voyais en piste. Et on parlait souvent du casque jaune d'Ayrton Senna, mais lui avait un casque aussi jaune, Hamilton, au départ. Et il y avait quelque chose en plus. Il flottait au-dessus de la piste. Il était capable de te faire un chrono, même s'il était gêné. Enfin, c'était, il y avait quelque chose en plus. Je ne savais pas ce que c'était. Mais on savait tous qu'il allait arriver en F1 et qu'il allait être spécial.
Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans son parcours? Il a connu Mercedes, il a connu McLaren et puis Mercedes. Qu'est-ce que tu retiens? Le stratège, l'attaquant, le pilote qui a une capacité hors norme à dépasser?
Alors, pas du tout, Stéphane. Moi, ce qui me... Bon, étant dedans, si tu veux, c'est... Pour moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est... on est tous rapides. On a tous une capacité à gérer nos pneus différentes. On a tous une capacité à comprendre les stratégies en course. Mais ce qui est important, c'est l'environnement. Parce que on a tous, dans le monde entier, que ce soit un athlète ou quelqu'un dans son travail, on a tous des qualités. On a tous des défauts. Mais le tout, c'est de trouver un environnement où on va tirer les qualités au maximum et mettre les défauts de côté de façon à ce que ça n'influence même pas les qualités. Et je pense que Lewis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un moment à McLaren où on s'est rendu compte qu'il y avait un malaise quand il était coéquipier avec Button. Et il n'était pas à son niveau. Et il a pris la décision de partir chez Mercedes, qui, je le rappelle, à l'époque, c'était pas gagné d'avance, très honnêtement, parce que Schumacher était chez Mercedes avec Rosberg, ça marchait plus ou moins. Mais la décision de partir de McLaren, qui quand même à ce moment-là était l'équipe qui l'avait amené au haut niveau, qui était quand même l'équipe qui semblait être une des meilleures à ce moment-là, d'aller dans une équipe qui était de moins bon niveau à ce moment-là et de prendre ce risque, et la transformation qu'on a vue physique, mais aussi dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, il y a eu une transformation. Il y a un Lewis Hamilton 2.0, je dirais. Et c'est cette transformation qui m'impressionne parce qu'il a su prendre la bonne décision au bon moment pour son bien-être, qui l'a rendu encore meilleur pilote.
J'aimerais bien évoquer avec toi, Simon, on va en parler plus tard dans notre émission, l'enchaînement des courses qu'il y a eu là pour la saison de Formule 1, forcément bousculée par l'épidémie de Covid. Et on entend de plus en plus parler de fatigue des équipes, des pilotes. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez, vous, connu en IndyCar? Et est-ce qu'à un moment, un pilote se dit, si les mécanos sont fatigués, ça peut devenir dangereux?
Ah, dangereux, non. Mais par contre, il est clair que nous, je sais que, pour te donner un exemple, je démarre la saison à 77 kilos et je finis la saison à 71 kilos tous les ans. Donc, ça donne une idée de l'organisme, de ce que tu vis. Mais personnellement, je sais que je vais perdre tant de poids pendant la saison dû à la chaleur, dû à l'activité physique de conduire la voiture, le stress, l'anxiété de jouer pour un championnat, mais du danger aussi. Et il est clair que le pilote se fatigue pendant la saison et il faut réussir à garder un niveau de performance important à la fin de la saison. Donc, c'est ça qui est très important. Après, tu te rends compte en effet que tes mécanos fatiguent pendant la saison et qu'il va falloir jouer avec ça. Il va falloir rajouter un coup de boost à tout le monde. C'est important d'avoir un esprit d'équipe. Donc, c'est le rôle du pilote d'être un vrai capitaine, comme dans une équipe de foot. Ça, c'est clair.
Alors, Lewis Hamilton, possiblement 7 fois champion du monde à Istanbul. Est-ce que la suite appartiendra à Max Verstappen, selon toi? Et comment est-ce que tu te vois, ce pilote?
Alors, Max Verstappen, c'est vrai qu'il est, il est impressionnant. Je pense qu'il il est capable de conduire une voiture survireuse, sous-vireuse, peu importe, il va en tirer un maximum. Et il le fait à l'aise, on a l'impression. Il se bagarre bien. Il commet quelques erreurs de temps en temps. C'est un peu le type de pilote qui passe ou qui casse. Et c'est pour ça qu'il est, en termes anglais, excitant à regarder. Parce qu'on est tout le temps sur le bord du canapé à se demander ce qui va se passer. Donc, c'est un pilote très intéressant à analyser, en effet. Il a une performance qui m'impressionne. Et il est jeune, donc il va progresser. Mais je mettrai ma pièce sur un Charles Leclerc.
Ah, intéressant. Tu sais qu'on avait fait une émission sur Eurosport.fr justement qui sera le pilote des années 2020, Charles Leclerc ou Max Verstappen. C'est intéressant que tu parles de Charles. Bah tiens, dis-nous un mot justement sur Charles. Tu nous disais qu'un pilote, ça doit être le capitaine d'une équipe. Lui, en 2 ans, il a pris le pouvoir, et pas dans n'importe quelle équipe, hein, la Scuderia Ferrari. Il la porte à bout de bras pendant une saison où vraiment la Scuderia est empêtrée dans des problèmes techniques. Impressionnant aussi la carrure de ce gamin.
Ouais, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait, très honnêtement. Il a déstabilisé Vettel, ça c'est clair. Vettel qui, peut-être, on parlait d'environnement tout à l'heure, peut-être c'est pas son environnement, c'est peut-être pas l'équipe idéale pour lui par rapport à ce qu'a pu être Red Bull. Je pense qu'on connaît Charles Leclerc, parle couramment italien. Et ça a malgré tout une influence sur les mécaniciens, sur l'équipe, sur la culture de l'équipe. Et Charles est très italien quand même. Il a roulé chez Prema. C'est Prema qui est une écurie italienne à l'origine. Il a fait des championnats en Italie. Je pense qu'il comprend mieux la culture.
C'est un produit de la Ferrari Driver Academy, ce que n'était pas Sébastien Vettel. Mais je crois que Vettel parle aussi couramment l'italien. Mais lui est vraiment le fils de l'équipe.
Ouais, je pense que Leclerc a juste cette un petit peu à la Lewis Hamilton chez McLaren au départ. Voilà, je pense que c'est. Alors, enfin, très honnêtement, je pense que dans la course automobile, l'environnement a un gros impact sur les performances. Et Charles Leclerc, il est exceptionnel en ce moment.
Alors, on aura une star qui reviendra peut-être en Formule 1, c'est même sûr. L'année prochaine, c'est Fernando Alonso qui est à une victoire de la triple couronne. Fernando Alonso est champion du monde. Il a gagné les 24 heures du Mans. Il court après cette victoire à Indy 500. Est-ce que tu peux nous parler de lui, puis de ce retour qu'il va opérer quand même à 40 ans? Est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué? C'est un gros pari qu'a fait Renault, qui viendra Alpine l'an prochain.
Alors Fernando, il s'est très bien adapté à la course sur ovale. Bon, cette année, c'était un peu plus compliqué. Il avait aussi... il est dans une équipe qui fonctionnait bien, ils avaient une bonne voiture, mais il s'est retrouvé aussi englué dans le trafic en course. On a d'ailleurs pas mal roulé ensemble et il est dans une position, il n'y avait pas grand chose à faire, un petit peu le même type de course que j'ai eu, mais il s'est bien adapté. Il était en rythme et je pense qu'évidemment dans une bonne voiture, comme il l'avait montré la première année, il aurait pu se battre aux avant-postes. Maintenant, j'ai l'impression qu'il s'éloigne un petit peu d'Indianapolis pour revenir en F1. Je pense qu'il est en pleine forme physiquement. Il est très motivé toujours, comme on le connaît. Renault a fait des progrès énormes. Cependant, moi, j'adorais la paire Ricciardo-Renault. Je trouvais qu'il y avait un gros, gros potentiel. J'espère que Fernando pourra porter encore les couleurs Renault comme il a su le faire dans le passé. Mais ça va être quelque chose d'intéressant à regarder. Ça va nous donner un petit peu de baume au cœur, je pense, parce que c'est de l'histoire, une belle histoire, Renault et Alonso. Donc, moi, je croise les doigts pour que ça se passe bien.
Alors, on parle d'un constructeur français, Renault, qui va devenir Alpine en Formule 1 la saison prochaine. On a un autre grand constructeur français qui va revenir à la compétition, c'est Peugeot, qui va retourner à l'endurance. Tu devines ce dont je vais te parler, parce que tu as été sur le podium des 24 heures du Mans, à la deuxième marche du podium avec une Peugeot. Le retour de Peugeot en endurance, Simon Pagenaud, je pense à Sébastien Bourdais aussi. Je me dis, on peut refaire un équipage.
Écoute, pour moi, les années, donc c'était 2009, 2010, 2011, pour moi avec Peugeot, ce sont des années exceptionnelles. Ce sont, je dirais peut-être dans ma carrière, les meilleures années de ma carrière, parce que c'est une période où j'ai beaucoup évolué. C'est une période où j'étais avec des pilotes de F1, des anciens pilotes de F1 qui sont arrivés, qui étaient chez Peugeot et contre qui je devais faire mes preuves. Donc ça a été une période fascinante pour moi, et puis j'ai énormément appris et où j'ai pu montrer ce que je savais faire, donc dans une très bonne voiture, en très bonnes conditions. Et puis moi, les 24 heures du Mans, c'est la première course que j'ai vue en tant qu'enfant avec mon père. On est allé aux 24 heures du Mans, il me semble que c'était en 89, donc j'avais 5 ans. Et donc, c'est une course qui me tient énormément à cœur. J'espère pouvoir revenir. Et puis, évidemment, les contacts sont là avec Peugeot. Il y a une histoire, il y a une sorte d'amour, je dirais, pour la marque. Je suis passionné de la 205 Rallye, de la 205 GTI. Donc, il y a un amour de la marque des deux côtés. Et voilà, on verra de quoi le futur est fait. Je ne sais pas pour l'instant, mais il est clair que les contacts sont là. Mais je ne sais pas de quoi le futur est fait. Et pour l'instant, je suis très concentré sur l'IndyCar. Mais je reviendrai et j'espère pouvoir me battre pour la victoire.
Alors, Simon, j'aurais aimé savoir aussi quelle est ton appréciation un petit peu de cette américanisation qu'on vit de la Formule 1 depuis que les nouveaux propriétaires ont racheté les droits commerciaux du sport en 2017. C'est plus de choses, c'est plus d'ouverture sur les réseaux sociaux. On veut faire un deuxième Grand Prix aux États-Unis. Est-ce que Miami, c'est une bonne idée? On parlait d'un moment de revenir à Indianapolis. Alors, Indianapolis, dont le propriétaire est ton boss, Roger Penske. Est-ce que tu vois la Formule 1 revenir aux États-Unis? Et puis, quand tu regardes aussi les Grands Prix, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a aussi une américanisation dans le côté sportif? C'est-à-dire qu'on fait intervenir un petit peu plus la voiture de sécurité, on module,
t'as
on
relance les courses.
Voilà, c'est autre chose. Est-ce que tu penses qu'il faut aller finalement vers ça? Et puis, des Grands Prix aussi sur deux week-ends, enfin, changer complètement l'ADN ou le logiciel de la Formule 1?
Alors, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses, en effet. Il y a la façon de dire, un peu à l'européenne, si je peux me permettre, de dire le meilleur doit gagner. Si le meilleur fait la pole et est premier au premier tour, c'est le meilleur qui doit gagner. On ne doit pas le ralentir en course. Donc, pas d'intervention de safety car, pas de virtual safety car, comme on l'appelle. Et puis, il y a l'autre philosophie qui est de dire on est dans un sport qui est un sport de spectacle. On est là pour faire plaisir aux spectateurs, on est là pour les faire vibrer. Et je rappelle que le sport automobile, à l'origine, c'est un sport, on doit en vibrer. Ça fait vibrer les sens. Et pour moi, très honnêtement, c'est un peu ma philosophie qui s'est transformée due à ma venue aux États-Unis et je dirais l'apprentissage de la course à l'américaine. Alors, il est vrai qu'au début, quand j'étais en tête et qu'il y a un drapeau jaune qui sortait, j'étais furieux. Je trouvais ça anormal, illogique et presque injuste. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ça rendait les courses tellement attrayantes, tellement belles, parce que d'un seul coup, tout était remis à zéro et les spectateurs étaient impatients de voir ce qui allait se passer. Donc, voilà, c'est deux philosophies complètement différentes, mais pour le spectacle, moi, je dirais que la course américaine est vraiment plus attrayante pour le sport en tant que tel et l'ADN du sport, je dirais qu'à l'européenne, c'est mieux.
Alors, on sent qu'il y a une différence de culture. Je me permets une dernière question, Simon. On a plus de pilotes américains en Formule 1. Est-ce que toi, tu en verrais un capable, désireux éventuellement de venir défier les pilotes de la Formule 1?
Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a plein de… Honnêtement, on se dit que… de l'extérieur, on se dit que les pilotes de F1 sont les meilleurs du monde. Alors, il est vrai que Lewis Hamilton, c'est le meilleur du monde en ce moment.
Ils aiment bien le penser, en tout cas.
Mais il y a plein de pilotes que je vois en 24 heures de Daytona. Il y a des pilotes de GT qui sont exceptionnels. Qui sont absolument exceptionnels, qui n'ont juste pas eu la chance de pouvoir monter dans une F1 et montrer ce qu'ils pouvaient faire. Il y a les pilotes d'IndyCar aussi qui devraient avoir leur chance, mais qui ne l'ont jamais eu. C'est comme ça, ça fait partie de la vie en général. On a des opportunités ou on les a pas. Mais pour moi, un mec comme Newgarden aujourd'hui est tellement mûr qu'il mériterait vraiment sa chance de pouvoir monter dans une bonne F1 et de montrer ce qu'il peut faire en tant qu'Américain. Un mec comme Scott Dixon aurait dû avoir sa chance également. Il me semble qu'il a testé pour Williams d'ailleurs à une époque.
Oui, tout à fait.
Mais bon, voilà. Après, le pilote d'IndyCar doit aussi changer physiquement parlant parce qu'on est trop musclé en haut du buste et c'est trop lourd. donc un mec comme Newgarden devrait beaucoup changer physiquement parlant, perdre beaucoup de poids pour être au niveau en F1. Parce qu'il y a la direction assistée en F1, il y a une demande physique qui est différente. Donc voilà, mais ça m'étonnerait que ce soit un problème pour lui. Je pense qu'il serait tout à fait capable.
Et est-ce que Jean Haas peut changer ça? Parce que quand il est arrivé en Formule 1, il a dit « je suis un petit peu désolé, je ne vois pas de jeune américain capable d'accéder à la Formule 1, mais c'est mon objectif. Est-ce que tu sens un frémissement pour la Formule 1 aux États-Unis qui serait porté par Haas, qui serait un point d'ouverture pour des pilotes et refaire une passerelle entre les États-Unis et l'Europe vers la Formule 1?
Ouais, je ne connais pas leur agenda, très honnêtement, mais je pense qu'en effet, ça aurait pu être une opportunité. Joseph, par exemple, hein, je parle de Joseph, donc Newgarden, de son côté, s'est énormément développé depuis qu'il est chez Penske, donc ça remonte seulement à 2017. Donc, il me semble que Haas était déjà en F1 à ce moment-là. Donc, il y a eu une grosse évolution de son côté. Et puis peut-être que très honnêtement il est dans une situation avec Penske aujourd'hui en or, donc vouloir changer pour aller dans une écurie de fond de plateau, je dirais, en F1, c'est peut-être pas très attrayant, donc je sais pas ce que lui désire non plus, mais personnellement je sais comment j'y réfléchirais, et pour moi ce serait plus important de gagner des courses qu'autre chose.
Eh ben, on va te missionner alors pour aller lui poser la question de notre part, et puis tu reviens nous reporter ça dans les fous du volant. Mille merci, Simon, de nous avoir accordé cette entrevue. C'était vraiment un plaisir. C'est toujours intéressant. On aurait encore 20 000 questions, mais on en a plein.
Il y a plein de choses à dire.
On pourra se refaire ça si ça ne te dérange pas.
Moi, avec plaisir. Avec plaisir.
C'est toujours un plaisir de t'entendre.
Ce qu'on souhaite surtout, c'est d'être convoqué encore à la Maison Blanche pour rencontrer à nouveau le président des États-Unis pour la meilleure des causes.
Ce serait parfait. Et voilà, couronne.
Merci beaucoup.
Deuxième bague.
Merci beaucoup. Merci à vous et bon courage pour l'émission. Merci à tout le monde de nous suivre. Et n'oubliez pas l'IndyCar, parce qu'il y a deux Français maintenant en plus avec Sébastien Bourdais. Profitez-en.
Exactement. Bon, quand même un moment incroyable, Stéphane, hein, sur cette interview de Simon Pagenaud. Il est simple, il est monumental, ce garçon.
Ouais, sans vouloir être trop familier, je dirais que c'est un grand mec. Voilà.
Exactement. On va parler du calendrier 2021 de la Formule 1 qui est tout chaud, même brûlant. C'est la Fédération internationale de l'automobile qui l'a publié sur son site. On a donc 23 dates pour le calendrier 2021. Ça va s'étaler du 21 mars jusqu'au 5 décembre. On commencera, comme d'habitude, en Australie. On terminera à Abu Dhabi avec un Grand Prix de France qui est prévu le dernier week-end du mois de juin. Alors moi, ce que j'ai noté, Stéphane, pas de Mugello, pas d'Imola, pas de Portimao, pas de Turquie. Alors sur les trois premiers, on avait déjà été enthousiasmé de découvrir ou de retrouver ces tracés ô combien spectaculaires. La Turquie, on le retrouvera bientôt, mais en gros, ceux qui nous ont dépanné, merci, salut.
Oui, c'est ça, c'est un petit peu d'ingratitude à leur égard, parce qu'ils ont quelque part sauvé le championnat. On a eu 17 dates grâce à eux. On savait que c'était des one-shots. On revient aux affaires habituelles. Finalement, c'est presque un soulagement de regarder ce calendrier qui a une allure tout à fait normale, qui est presque calqué sur celui de 2019.
C'est un calendrier plan A, puisque on a vu hein, que sur les réseaux sociaux, tout de suite, on dit « mais alors, on fait comme s'il n'y avait pas d'épidémie ». Évidemment, il y aura sans doute un plan B. Pour l'instant, on part dans l'hypothèse que tout va bien se passer. On croise les doigts d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien en sortir et retrouver une activité à peu près normale. Mais alors, ce qui nous a tous frappés, c'est évidemment l'inflation du nombre de Grands Prix. 23 épreuves sur l'ensemble de la saison 2021. Stéphane, est-ce que du côté des instances dirigeantes de la Formule 1, on s'est dit « allez, travaillez plus pour gagner plus
» Oui, je crois que le slogan a encore une longue vie. C'est l'esprit Bernie Ecclestone. Hein. On pensait s'en être débarrassé, mais les équipes lui demandaient plus de retombées financières. Et Ecclestone avait dit « j'ai une idée, en fait, on va faire plus de courses, comme ça le gâteau sera plus grand. Moi, je prendrai toujours ma quota, hein, ce qui ne changera pas. » Mais comme le gâteau sera plus grand, vous en aurez un peu plus. Eh bien, ce système-là continue d'une façon un petit peu curieuse d'ailleurs, parce qu'avec le budget cap, le gâteau va être plus gros et finalement, le promoteur va peut-être en garder un petit peu plus pour lui parce qu'il donnera maintenant une somme limitée à partir de 2021 aux équipes. Alors, évidemment, cette période de Covid, c'est peut-être pas exactement comme ça qui va se passer, mais ce qui va se passer. Mais c'est pour dire que l'inflation profite finalement au promoteur, ce qui est dans l'ordre des choses et du business. Alors, sur les 23 dates, tu l'as rappelé, Gilles, il y en a une en fait qui est en suspens, c'est le Grand Prix du Vietnam. Et ça ne fait pas tellement les affaires du promoteur, justement, puisque j'ai calculé le prix du plateau sur une saison normale, on va dire avec des jauges complètes du public sur toutes les pistes. Vous savez qu'un organisateur, un promoteur, il doit payer une certaine somme, c'est ce qu'on appelle le prix du plateau, pour avoir le droit d'avoir une date au calendrier. Puis ensuite, il se débrouille avec de la billetterie, avec des partenaires, avec des sponsors. Et le Vietnam, c'est le grand prix qui paye le plus, normalement 55 millions d'euros sur un total de 600 millions pile. C'est le prix du plateau, ça n'a rien d'officiel, mais on est vraiment dans cet ordre d'idées. Donc, ça pose déjà peut-être un problème et j'imagine que cette date, je crois, du 25 avril, eh bien, on va tout faire pour la sauver. À part ça, ce que je vois, alors Gilles, moi je regarde toujours la première date que je regarde, c'est le Grand Prix de France, puisqu'on a été sevré pendant trop d'années. Et c'est le 27 juin, c'est la Summer Race, avec une signature particulière qui avait été soulignée par le promoteur de la Formule 1 quand on était revenu au Castellet, avec un circuit très très graphique, avec les montagnes en arrière-plan, tout ça c'est génial. On a un Grand Prix, vraiment, il faut en être heureux. Et puis, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus dommageables. Je dirais, c'est l'absence de l'Allemagne quand même, avec Mercedes, qui ne pourra pas célébrer comme il se doit ses victoires, son aura, sa gloire. C'est un petit peu regrettable. Le déplacement de Zandvoort, qui, eux, ils ont été assez malins. Ils ont peur encore des effets de la crise et se sont décalés.
C'est ça.
Un petit peu plus tard dans l'été. Et puis, la nouveauté qui était attendue, c'est l'Arabie Saoudite. En avant-dernier Grand Prix de la saison. Pas de Grand Prix, pas de deuxième Grand Prix aux États-Unis. C'était prévu à Miami, ça c'est reporté. Et puis Gilles, il faut le préciser aussi, c'est comme ça depuis très longtemps, pas de Grand Prix en Afrique. Donc pour un championnat qui est assez universel, il faudrait trouver un promoteur, il faudrait trouver un montage financier pour avoir ce point d'entrée aussi en Afrique qui me paraît maintenant essentiel.
Exactement. Alors moi, pour en revenir sur les quelques points que tu as évoqués, bon, il y avait la blague « travailler plus pour gagner plus ». Je faisais référence à ça parce qu'on a eu aussi quelques chiffres sur les revenus de la Formule 1 pendant cette année 2020, ô combien particulière, et notamment sur le troisième trimestre, où on a déclaré, parce que pour le reste, j'en sais rien, des revenus de 597 millions de dollars pour ce troisième trimestre, sachant que l'année dernière, à la même période, c'était 633 millions. Donc, on a perdu un petit peu, mais c'est pas énorme. On aurait pu penser qu'on allait avoir plus de pertes que ça. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les coûts, eux, ont explosé et qu'on est passé. Alors, je regarde mes chiffres, mais on avait gagné, je pense, une trentaine de millions de dollars l'année dernière et que là on est dans le négatif de beaucoup et que c'est ce qui oblige ou justifie ou légitime, c'est selon le terme qu'on a envie d'employer, le fait que on ne se tourne pas vers des organisateurs plus historiques mais moins capitalistes si je peux dire, et qu'on retourne, hein, on retourne à Sochi alors qu'on a vu que ce circuit était sans doute un des moins beaux, un des moins intéressants. On va vers des endroits où il n'y a pas de public qui est intéressé par la discipline. Voilà, ça fait partie du, je dirais, du business plan. Et c'est vrai que le plus étonnant, c'est de voir qu'on essaye de faire plus de grands prix. C'est pas cohérent, pour reprendre un terme qu'on avait employé la semaine dernière, avec le salary cap et donc la limitation des budgets des équipes. On verra où ça en sera. Après, il y aura effectivement ce phénomène de fatigue, hein, que les équipes ont évoqué. 23 Grands Prix avec des longs déplacements. On compare ça souvent à la NASCAR, hein, Stéphane, où il y a traditionnellement 36 dates, mais les déplacements sont plus courts. Il y a ça aussi qui est étonnant dans ce calendrier, c'est qu'on fait parfois des allers-retours d'un continent à l'autre pour aller, par exemple, le Grand Prix de Monaco. On fait Monaco et de mémoire on va en Azerbaïdjan, après on va au Canada et après on revient au Castellet. Il y a 200 km entre Monaco et le Castellet. Là on aurait peut-être pu faire ce qu'on appelle un back-to-back, deux week-ends consécutifs avec un déplacement finalement assez court. On s'est privé de ça. Il y a des incohérences. En même temps, c'est compliqué, un, de faire un calendrier pour un championnat du monde de Formule 1 déjà en temps normal, et là en ce moment particulièrement difficile. Donc on va dire que peut mieux faire, mais que au moins on a de quoi travailler et espérer surtout que ça se passe de cette manière l'année prochaine.
Oui, alors sur le Monaco Castellet, il aurait fallu donc déplacer le Castellet début juin, ça ce qui me paraît impossible, je dirais, dans la signature même du Grand Prix qui est la Summer Race, ou alors le décaler Monaco à la fin juin, ce qui n'est pas non plus sa date traditionnelle, et on aurait peut-être essayé de toucher le même public. Alors, bon, je pense que c'est bien comme ça. Ça nous assure deux courses en France ou assimilées. Faut s'en réjouir, surtout que le Grand Prix de France et le Grand Prix de Monaco n'ont pas eu lieu cette année. Quand même. Ça a été parmi les victimes de la crise sanitaire. Bon, mais effectivement, ce calendrier, surtout, il est un petit peu ahurissant parce qu'on retrouve... J'ai compté pas moins de 4 Grands Prix doubles, c'est-à-dire back-to-back, qui se suivent d'un dimanche sur l'autre. Et puis, dans tout ça, on insère aussi 3 Grands Prix qui se suivent à deux reprises, ce qui va nous faire quand même 6 Grands Prix en 7 week-ends. Là, c'est trop, je trouve, et ça inquiète beaucoup de directeurs d'équipe, Toto Wolff, hein, qui a dit on ne va pas pouvoir faire toute la saison avec le même personnel. Il y a certaines personnes qui sont le noyau dur de l'équipe qui vont faire tous les Grands Prix et autrement, on va former des gens pour organiser une rotation, pour organiser la récupération à l'usine et pour essayer de traverser encore ce calendrier qui va être un calendrier infernal, un calendrier de staccanoviste. Et alors, je ne sais pas si on verra aussi, alors certainement que là, il va y avoir peut-être des Grands Prix sur deux jours qui vont être insérés dans ces triplettes à voir, mais alors Verstappen le disait, c'est bien tout ça, mais ça change pas grand chose pour les mécaniciens qui sont obligés de qui installent tout, hein, quand ils arrivent sur le circuit, les garages qui sortent tout le matériel des caisses, faut tout ranger, faut faire remettre les choses à leur place, et puis le dimanche c'est reparti, on met tout dans les camions. Alors eux ils installent ça, qu'ils l'installent pour deux jours ou trois jours, pour eux ça change pas grand chose. Max Verstappen disait les boss arrive tard sur le circuit, repart le plus tôt et puis il laisse tout le monde travailler. Donc ça va générer quand même beaucoup de fatigue. Je trouve que c'est très, très inquiétant pour le rythme de la Formule 1. C'est vraiment pas une bonne chose. Et en termes de coûts aussi, parce que tu en as parlé, Gilles, ça va pas du tout dans le sens de la réduction des coûts. On avait supprimé les tests pendant la saison. On a réduit les tests de préparation à la nouvelle saison en février. Donc, les équipes avaient supprimé leur équipe de test parce qu'elles avaient une équipe sur les Grands Prix et une équipe pour faire des tests. Hein, parce que dans les années encore 90 et même début des années 2000, ça testait régulièrement lundi, le mardi après les Grands Prix avec un ou deux pilotes essayeurs. Tout ça, c'est fini. Et on y retourne, on replonge et on fait un budget cap et on leur redemande de mettre une équipe B en place. Donc, je ne comprends pas bien.
On verra tout cela, hein, parce que évidemment, tout cela, c'est évidemment assujetti à l'évolution de la pandémie de Covid et puis de voir si effectivement, si plusieurs équipes rechignent un petit peu, on peut éventuellement, je pense, en reparler de ce calendrier. Malheureusement, on n'y est pas encore et on verra si on a bel et bien 23 dates au terme de cette saison 2021. Le deuxième point qu'on voulait évoquer, Stéphane, pour essayer de conclure cette émission, c'est la signature, la prolongation de contrat de Kimi Raikkonen qui a surpris pas mal de monde parce qu'on sentait finalement le Finlandais partir vers une retraite plutôt bien méritée. Et puis finalement, donc, il a été confirmé comme Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo. Et ça soulève quelques questions, Stéphane, parce qu'on se demande... Alors c'est je trouve que c'est une question typiquement de journaliste, mais tant pis, on va se la poser quand même. Est-ce que ce n'est pas la saison de trop pour Kimi Raikkonen? Toi, tu penses que oui?
Alors, moi, Gilles, je pensais déjà que cette saison-là, c'était la saison de trop. Donc, il va faire la deuxième saison de trop. Donc, à partir de là, on peut en faire 3, 4. Il aura quand même 41 ans au début de la saison. Alors, Alonso aura 39 ans quand il va faire son tour.
C'est très, très jeune, hein, 41 ans, je tiens à le dire. Bon.
Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Mais voilà, on le sent clairement sur le déclin et j'aurais aimé qu'il prenne un jeune. Il y avait une évidence, c'était Mick Schumacher, mais Ferrari ne pouvait imposer qu'un seul pilote, c'est Giovinazzi. c'est leur choix et ils vont le garder. Et Vasseur a dit, ben moi, je garde en fait Kimi parce que le package, c'est le package qui est en cause dans les résultats qui ne sont pas très bons de l'écurie quand même. Et Raikkonen, c'est un champion du monde qui a quand même un impact formidable. Lui dit, un, je suis au projet. Deux, Alfa Romeo, c'est ma famille. Il y a encore plein de gens qui travaillent dans cette équipe qui étaient là. Quand
il a commencé, c'est Sauber. Hein. C'est Sauber, voilà. Hein, l'équipe, en fait, de base.
Et exactement, en 2001. Donc, et puis, Vasseur dit, moi, quand je regarde Kimi dans son éthique de travail, il est motivé, c'est un vrai leader, surtout autour de lui. Mais il était parti de chez Ferrari parce qu'il était quand même dominé par Vettel. J'ai pris des notes en qualif, simplement sur 20 comparaisons. Il avait été battu 14 fois, ça fait quand même beaucoup. Et puis, là, on sent que ça s'étiole chez Alfa Romeo parce que Giovinazzi, ce n'est pas... un monstre de rapidité, on va dire. L'an dernier, il l'a battu 11-8 en qualif, et cette année, c'est 7-6. Moi, je trouve vraiment qu'il devrait dominer beaucoup plus que ça, Giovinazzi, et même un moteur comparable, finalement, et avec un peu plus de budget de développement que Haas, il devrait être le meilleur de ces quatre voitures, Haas et Alfa Romeo, régulièrement sur la grille. Il ne l'a été que 5 fois cette saison. Raikkonen ne bat pas assez souvent Grosjean et Magnussen. Finalement, c'est ça le souci. L'an dernier, il avait marqué 43 points contre 14 à Giovinazzi. Là, c'est 4 points pour le Finlandais et 4 points pour l'Italien. Le score est divisé par 10 quand même. Je pense que c'était...
Le moteur y est pour beaucoup quand même. Hein.
Le moteur y est pour beaucoup, certes, mais il ne fait pas une réelle différence par rapport à Haas. C'est ça qui me gêne. Alors, il fait quelques numéros qui sont encore géniaux. Le premier tour à Portimao, il gagne 10 places.
Tout le monde l'a en mémoire. Hein. C'est vraiment une séquence incroyable.
Il avait des pneus tendres qui adhéraient plus sur une piste mouillée. Bon, mais moi, je me posais la question, pourquoi ne pas avoir pris Perez et Hülkenberg ? C'était finalement une solution assez triviale.
Eh bien, tu vois, je ne suis pas du tout de ton avis parce que... Je pensais qu'on allait sacrifier le soldat Raikkonen pour faire place nette à Mick Schumacher, étant donné que Giovinazzi est back-upé par Ferrari. Alors, je n'ai rien du tout contre Mick Schumacher, mais je me suis dit, tiens, on ne va pas pouvoir se plaindre d'un jeunisme à tout craint. On a gardé, oui, un garçon qui a été champion du monde de Formule 1. Ça veut encore dire quelque chose. Il a été champion du monde avec Ferrari. Ça pèse lourd, ça, dans le CV d'un pilote. Et on le voit, d'ailleurs, il y a des campagnes publicitaires et on prend Kimi Raikkonen. Il n'y en a pas beaucoup, des pilotes de Formule 1 qui font de la publicité. Mais lui a été champion du monde chez Ferrari, donc il a encore je ne sais pas comment dire, il est sexy en termes de
il est bankable.
Voilà, exactement, bankable. Le premier tour de Portimao que tu mentionnes, ça prouve qu'il a encore la grinta, qu'il a encore le coup de volant exceptionnel. Il y a un backup dans son entourage proche technique, il y a un backup technique qui est vraiment colossal de la part de Kimi, qui a un peu une image brute de décoffrage, mais qui est un super technicien. Et je pense qu'un garçon comme Fred Vasseur, il sait ce qu'apporte un garçon comme Kimi Raikkonen. Et en plus, je vais te dire un truc, ce sont deux personnes charmantes, mais je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu. Fred Vasseur, c'est pareil, hein, les premiers contacts que vous avez avec lui, il est un peu renfrogné, faut pas dire une bêtise dans les premières phrases que vous dites en sa présence, parce qu'alors là, sinon, ouais, bon, d'accord, ok. Et je pense que ces deux personnages-là, j'adore Fred Vasseur, en plus, il a un charisme qui est exceptionnel, une histoire fabuleuse, et je pense que ces deux personnages-là se comprennent, et se connaissent parfaitement, et c'est pour ça que ça match, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de se parler. Un regard, ouais, c'est bon. À mon avis, les briefings entre Fred Vasseur et Kimi Raikkonen, ça prend 3 minutes 30 et derrière, ça turbine. Donc, moi, je suis plutôt content de voir que on n'a pas passé par la fenêtre un ancien champion du monde. Je pense qu'on sous-estime beaucoup Antonio Giovinazzi. Moi, j'aimerais bien voir Giovinazzi dans une vraiment bonne voiture. Je pense qu'on serait assez surpris. Ça fait partie de... Tu vois, si c'est pour mettre Perez ou Hülkenberg, je ne vois pas l'intérêt. Autant garder un mec qui a été champion du monde. Perez n'a jamais été. Hülkenberg, il n'est jamais monté sur un podium. Eh ben, gardons Kimi Raikkonen. Ce n'est pas parce qu'il a quelques années de plus qu'il est moins bon. La preuve, hein, c'est que dès qu'il y a une opportunité, au Portugal, c'était incroyable. Voilà, il y avait vraiment une demi-chance de faire quelque chose sur 100, bah, il l'a fait dans le premier tour. Après, le soufflet retombe, mais j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et je dois avouer que ouais, je serais content au premier Grand Prix de la saison prochaine de revoir Kimi Raikkonen encore pour un tour de piste.
Tu l'as dit, je reprends l'un de tes propos, Gilles, les briefings qui doivent faire 3 minutes à peu près entre Kimi et Fred Vasseur. Raikkonen a dit, moi je me sens bien dans cette équipe parce qu'on préfère le dur travail au grand discours. Et ça va tout à fait dans le personnage.
Exactement. De
Raikkonen. C'est clair, des réponses toujours très, très courtes. Alors, moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il aurait pu s'ouvrir à d'autres séries. Alonso le prouve. Alonso sentait que sa carrière tirait vers sa fin en Formule 1 avant de saisir l'opportunité Renault. Et puis, il s'est mis au Dakar, il s'est mis à l'IndyCar. Et je trouve qu'en fait, là maintenant, Raikkonen, il n'aura pas de deuxième carrière, je veux dire, avec des grandes ambitions, parce que tourner la page et puis on peut commencer d'IndyCar à 36 ou 37 ans, on peut être très bon aussi en endurance, et bah, viser les 500 miles, viser les 24 heures du Mans, c'est quand même assez excitant, mais il sera trop vieux pour ça maintenant, et la vérité, c'est que quand Raikkonen va arrêter, il risque de disparaître mais complètement des radars.
La vérité, c'est qu'il s'en fout complètement, en fait. Je pense qu'il n'y a que la Formule 1 qui l'intéresse. Les 24 heures du Mans, l'IndyCar, honnêtement, je pense qu'il s'en tape complètement. Il avait un rêve, c'était de faire du rallye. Il l'a fait dans les meilleures conditions possibles avec Citroën. Et il est revenu derrière. Il fait une deuxième vie en Formule 1. Et je crois que, voilà, quand il aura fait le tour, je pense que c'est lui qui dira « Bon, c'est bon, stop, j'arrête, j'en ai marre. » Et je ne suis pas convaincu que le jour où il se dit ça, il termine la saison. À mon avis, il va dire « Bon, allez, Fred, je te laisse, mets un petit jeune dans la voiture. Moi, je rentre dans ma Finlande et je vais couper du bois et amusez-vous bien. » Je le vois vraiment comme ça. En tout cas, voilà, je le dis, je le répète, je suis pressé de le voir voilà, en Australie la saison prochaine en espérant que les progrès du moteur Ferrari puissent lui permettre de jouer un peu plus aux avant-postes qu'il a fait cette année. Mais ouais, je dois avouer, je suis content d'avoir notre vieux Viking sur la grille en 2021. Stéphane, le dernier point qu'on va évoquer juste en quelques secondes, cette 14e épreuve de la saison, le Grand Prix de Turquie, qui revient au calendrier donc, pour la première fois depuis 2011. Et donc, un moment peut-être historique, parce qu'après avoir égalé Michael Schumacher en nombre de victoires un peu plus tôt cette saison, Hamilton va peut-être devenir l'égal du pilote allemand, mais cette fois au nombre de couronnes mondiales.
Oui, Gilles, il a 85 points d'avance sur Bottas. Donc, dimanche, après la course, il faudra qu'il en reste 78, parce que même si Bottas arrivait à égalité avec Hamilton, c'est le nombre de victoires qui ferait la différence. Donc, ça signifie, par exemple, que Bottas peut gagner sans faire le meilleur tour en course et Hamilton se contenter d'une deuxième place, donc lui céder 7 points et pas plus, pour avoir ce septième titre.
C'est ça ce qu'il faut retenir. Hein. Deuxième place et Hamilton est champion du monde.
Voilà. Alors après, il y a d'autres combinaisons possibles, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête. Mais moi, je serais surpris qu'Hamilton se contente d'une deuxième place, vraiment. Et puis au passage, je me souviens juste qu'effectivement, c'est Istanbul aussi en 2006 qui avait montré l'une des facettes du talent prometteur d'Hamilton, une remontée vraiment du fond de grille jusqu'à la deuxième place, un festival de dépassement. Sur ce circuit, on peut opérer quand même plus de dépassements qu'à Imola, donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle.
C'est un des rares circuits dessinés par Herman Tilke où, figurez-vous, qu'on peut dépasser. Je ne sais pas, il s'est trompé ce jour-là et il n'a pas fait comme d'habitude et il a fait un super circuit qui tourne à gauche. Hein. D'ailleurs, il y a deux circuits anti-horaires qui vont succéder au calendrier, Imola et donc Istanbul Park. On a tout dit ? Si, les horaires. Quand même, première séance d'essai libre, parce que c'est des horaires un petit peu particuliers, vous ne faites pas piéger. Première séance d'essai libre vendredi à 9h, la qualif samedi à 14h, et le Grand Prix, le départ est à 11h10. Hein, donc, il faut bruncher et enchaîner direct avec ce 14e Grand Prix de la saison. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Stéphane ?
Ah ben non, écoute Gilles, tu as tout dit. Donc, on attend avec impatience cette course maintenant. Et puis, qui verra aussi la continuité pour la lutte à la troisième place du championnat entre Renault, McLaren et Racing Point. Et ça va durer jusqu'au bout.
Exactement. Ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Donnez-nous 5 étoiles. Abonnez-vous aussi, et comme ça, lors du prochain numéro, ça arrivera directement sur votre application. Stéphane, je te souhaite un bon week-end en Turquie. On se retrouve la semaine prochaine pour les fous du volant post-Grand Prix de Turquie. Merci d'avoir été avec nous. On coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.